Et à midi, on aime l'été. Nous sommes le 19 juillet. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter cette émission avec toujours son lot d'activités estivales à vous proposer, son lot d'invités vraiment passionnants sur toutes sortes de sujets. Par exemple, tiens, la notion du temps chez les personnes non-voyantes. Eh bien, nous allons en parler avec Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation visuelle. Et puis, nous ferons un survol des soins de fin de vie avec Maître Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires, qui siège à la commission sur les soins de fin de vie. Également, aujourd'hui, saviez-vous que sur le lac Mamfremagog, eh bien, il y a un bateau qui navigue, un bateau qui vous propose un menu gastronomique vraiment fantastique, qui vous propose toutes sortes de belles choses à voir autour du lac Mamfremagog. Et saviez-vous que ce bateau, qui s'appelle le Grand Cru, eh bien, il est accessible et c'est très rare pour les bateaux dits de croisière. Et pour nous en parler, Daniel Abibaud, qui navigue elle-même sur le Grand Cru, étant responsable du marketing. Et puis, en toute fin d'émission, nous parlerons de justice et nous parlerons de changement constitutionnel avec Laurent Trépanier et sa chronique juridique. D'abord, on va commencer ça avec quelques nouvelles. Que devrions-nous avoir à payer avec notre système de santé financé par l'État, se demande-t-on dans le Québec Huffington Post. Comme l'a démontré une récente enquête menée par le Globe and Mail, certains Canadiens doivent payer un supplément pour les soins qu'ils croient être entièrement couverts. L'enquête a révélé la complexité de cette problématique. Le système de santé canadien n'est pas aussi public que beaucoup de personnes voudraient bien le croire. Contrairement aux enseignants des écoles publiques, ceux qui fournissent des soins de santé ne sont pas des employés du gouvernement. Et ce que nous appelons des hôpitaux publics est en fait des organismes privés à but non lucratif. Selon les termes de l'OCDE, le système de santé canadien est un modèle de contrat public qui repose sur le financement public de prestataires privés. Comme les soins de santé au Canada sont de compétences provinciales, il existe des écarts considérables à la grandeur du pays. Toutefois, pour recevoir les transferts du fédéral, les régimes d'assurance provinciaux sont tenus de financer entièrement tous les services assurés aux personnes assurées. Pour des raisons historiques, on entend par « services médicaux assurés » ceux qui sont nécessaires sur le plan médical et rendus par un médecin dans un lieu donné, par exemple les hôpitaux. En conséquence, seulement environ 70% des soins de santé sont financés par l'État. Comme l'enquête a permis de le relever, certains médecins ont aussi trouvé des failles qui leur permettent de facturer des services supplémentaires qui n'entrent pas dans la catégorie des services assurés. Un exemple probant est celui d'un patient de l'Ontario qui a dû payer $495 pour voir une diététiste, un service non assuré, afin d'être placé plus haut sur une liste d'attente pour subir une colonoscopie ouverte et couverte au public. L'enquête a fait grand cas de l'importance de sévir concernant ces activités, même si on peut contester l'illégalité de ces pratiques et parler plutôt d'un problème d'éthique. Il n'y a aucune raison de payer des frais supplémentaires pour des services qui seraient autrement couverts par un régime public, à moins que ces services gratuits soient inférieurs ou considérés comme tels, comme il n'y a pas lieu de payer pour contourner une file d'attente. À moins que cette attente soit longue, la preuve révèle que le fait de permettre un paiement au privé diminue la qualité de soins accessibles au public. En région, les travailleurs de la région sont deux fois plus à risque de surdité que le reste des Québécois. On parle des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est ce que révèle un fascicule qui a été produit par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CISAT, à partir de données de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. C'est d'après une entrevue de Félix B. Desfossés pour Ici Radio-Canada. Quelque 6% des habitants de la région vivent avec une surdité liée à une activité professionnelle, comparativement à un taux de 3% pour l'ensemble de la province du Québec. Les hommes seraient particulièrement à risque puisque 21% d'entre eux travaillent dans un milieu de travail où le bruit est considéré comme intense, contre 4% pour les femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est surtout dans le secteur de l'économie primaire, d'activités économiques primaires dont on parle ici, donc comme l'agriculture, la foresterie, le domaine minier, et c'est ce que précise l'agent de planification, de programmation et de recherche à la direction de santé publique, Guillaume Beaulé, ajoutant que les hommes sont plus particulièrement touchés par la surdité. Dans ce domaine-là, ce sont 2 travailleurs sur 5 qui se disent exposés à du bruit intense, alors que dans le domaine des services, c'est 6%. C'est une question de prévention, comme c'est souvent le cas, poursuit M. Beaulé. Donc, il est important de rappeler aux travailleurs de porter des coquilles, des bouchons ou tous les appareils de prévention pour réduire l'intensité du bruit. C'est sûr que les entreprises peuvent aussi faire des installations pour avoir des machines qui sont moins bruyantes, même si ce sont des investissements à long terme. Si l'on ne tient pas compte de l'exposition au bruit en milieu de travail, l'Abitibi-Témiscamingue présente un taux de surdité de 18%, soit près d'une personne sur 5, une proportion qui est de 14% au Québec. En Israël, maintenant, c'est un article de Jessica Steinberg qui vient de timesofisrael.com et qui nous parle de Hallel Markowitz, qui est née en 2010. Et lorsqu'elle est née, sa maman, Gabrielle Markowitz, a créé un compte Facebook en son nom, Hallel Mini Supermodèle. En dessous du profil d'Hallel, on peut lire la phrase d'accroche « Je suis Hallel, je suis atteinte de trisomie 21, je ne suis pas trisomique, je suis Hallel ». Markowitz ne rêvait pas nécessairement qu'Hallel devienne mannequin, bien qu'elle considère que ce soit une façon de normaliser les réactions et les prises de conscience face aux personnes qui présentent un handicap. Et l'idée de Markowitz a porté ses fruits. Hallel et plusieurs autres enfants israéliens présentant un handicap ou des besoins spéciaux ont récemment posé pour la collection été 2017 de Select Fashion, une marque de prêt-à-porter pour enfants. « J'espère que ce n'est que le début », a affirmé Mme Markowitz, qui souhaite que cela devienne une norme commerciale et que les sociétés emploient des personnes avec des besoins spéciaux comme les autres. Select Fashion n'a pas été la première expérience de la petite Markowitz pour inclure des enfants ayant des besoins spéciaux dans une campagne publicitaire. Elle avait commencé avec Sky Green. Vous voyez que les anglicismes en Israël, c'est... Hein? Il n'y a pas qu'en France. Une boutique de créateurs pour adolescents qui a employé un mannequin ayant des besoins spéciaux dans sa campagne vidéo. C'est une réussite, mais c'était une boutique, explique la maman. Nous avions besoin de quelque chose à l'échelle nationale. Quand Hallel est née, j'ai compris, comme tout parent, avec un enfant spécial, que mon enfant était fabuleux et que le problème venait du reste du monde, explique-t-elle. Les personnes qui n'ont jamais eu affaire à des personnes avec des besoins spéciaux sont ignorantes et pleines de préjugés. Mon rêve maintenant, c'est de voir un immense panneau sur Ayalon, qui est l'autoroute principale de Tel Aviv, pour je ne sais quelle société où l'un des enfants présente un handicap, a déclaré Madame Markowitz. La notion du temps, hein, la notion du temps pour les personnes non-voyantes ou les malvoyants, c'est un sujet sur lequel j'avais envie de me pencher et j'ai trouvé en Madame Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation visuelle du CIS de la Montérégie Centre, certainement la personne exactement qu'il me fallait pour répondre à toutes mes questions. Bonjour Madame Trépanier.
Bonjour madame.
Alors écoutez, je suis vraiment ravie de parler avec vous de l'importance de la notion du temps dans le développement notamment d'un enfant qui vit avec une déficience visuelle. Hein? Connaître l'heure. Maman, quelle heure il est? Comment on fait pour enseigner les principales stratégies de cette notion de temps à un enfant?
Okay. Ben dans le fond, c'est ça, c'est que moi, j'ai rédigé un article dans la revue L'Éclaireur pour, c'est beaucoup notre travail comme spécialiste en adaptation, c'est de sensibiliser le parent
c'est
que
ça.
L'enfant qui est non-voyant ou l'enfant qui, comme, qui ne voit pas bien n'a pas toujours accès à ce que les autres ont, dans le fond, facilement dans la vie de tous les jours. Puis la notion de l'heure et du temps était quelque chose quand même d'assez majeur parce que quand un enfant ne voit pas, c'est sûr que le temps va tout le temps apparaître un peu plus long. On a juste à penser quand les parents vont dire la phrase « attends », quand l'enfant est voyant, va, dans le fond, pouvoir poser les yeux sur des objets, regarder, dans le fond, ce que les personnes vont faire. L'enfant qui est non-voyant ou l'enfant qui a une déficience visuelle a, dans le fond, n'a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire que le temps lui apparaît toujours plus long.
Oui, mais écoutez, jamais j'aurais pensé à ça. Effectivement, vous avez bien raison. Mais oui.
Puis, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est de, dès le jeune âge, je vous dirais, dans le fond, même les tout-petits, on va essayer comme de sensibiliser le parent à la façon d'introduire la notion du temps. De toute façon,
oui.
Ça s'introduit assez rapidement quand on pense seulement à la minuterie du four à micro-ondes qui va indiquer le temps de cuisson, de réchauffer un aliment.
Oui, effectivement.
Alors, c'est des notions que on va suggérer aux parents, dans le fond, de dire à l'enfant, de effectivement, bon, ben, ça, je sais pas, ça va prendre 10 secondes, tout ça. C'est sûr que les enfants sont jeunes, mais en même temps, c'est intéressant de comme de ces notions-là qui les aient très tôt, parce qu'à ce moment-là, que quand il va arriver plus tard à gérer justement les secondes, les minutes et les heures, ça sera déjà des notions qu'il aura été, dans le fond, sensibilisé étant jeune.
Et quand vous dites très tôt, Madame Trépanier, c'est à partir de quel âge?
Bien, je vous dirais, dans le fond, c'est sûr qu'on pense souvent dans les enfants aux alentours de l'âge de 2 ans, que ça pourrait être quand même bien, mais je veux dire, le mot attend, je pense qu'il se dit assez rapidement.
Oui. Hein?
Dans le fond, fait que c'est ça. Fait que je vous dirais que quand les occasions sont là, parce qu'on va souvent utiliser avec les enfants, même si c'est des bébés, on va comme souvent, dans notre langage quotidien, parler de demain, d'aujourd'hui, de hier. Fait que toutes ces notions-là de temps, ça veut dire que ça va être de façon spontanée, vont être introduites dans le quotidien. Ce qu'on va s'assurer avec le parent aussi, c'est que quand on pense, je sais pas, à l'horloge familiale, etc., elle est souvent en haut, très en haut, dans le fond, installée sur un mur. Ben, des fois, ce qu'on va pouvoir suggérer aux parents de baisser cette horloge-là pour l'enfant, justement, qui peut voir, puisse avoir accès à cette heure-là. Parce que c'est sûr que si elle est haute, ça, lui, ne pourra pas voir, dans le fond, l'horloge. Fait qu'il n'y aura même pas cette... Fait que déjà, de le pouvoir lui mettre à la portée, dans le fond, la notion du temps. Pour l'enfant qui est non-voyant, on va avoir d'autres outils. Ça veut dire que c'est souvent plus par le mode sonore. Ça veut dire qu'on va avoir des cadrans sonores. Fait que ça va être quelque chose qui pourrait être une possibilité. Ça veut dire quand l'enfant, à un moment donné, va comme justement susciter le questionnement, dire il est quelle heure, etc. Parce que le parent va souvent parler, bon, on s'en va à 3 heures, je sais pas, voir grand-maman, etc.
Oui, c'est ça.
Bien, à ce moment-là, c'est que si on lui met une possibilité pour lui d'aller, comme avec son cadran parlant, aller actionner la touche, puis à ce moment-là, avoir cette notion-là du temps, d'entendre le 3 heures, bien, je veux dire, pour lui, il y a déjà comme c'est un développement de son autonomie. Dans le fond, il est déjà sensibilisé à ça, puis il y a comme un moyen qui est accessible pour lui de pouvoir lire l'heure, entre guillemets.
D'accord. Il existe de nombreux outils quand même, enfin, en tout cas, de différents outils hein, pour... qu'on peut faire utiliser par un enfant.
C'est ça. Ben, dans le fond, pour les enfants, justement, il y a les cadrans sonores. Il y a des cadrans aussi qui sont braille.
Oui.
Pour les plus jeunes, c'est sûr qu'on va passer plus par le sonore au début parce que, je veux dire, au niveau comme l'horlogerie qui est braille, c'est quand même, il y a beaucoup de motricité fine parce que quand on pense, dans le fond, comme il faut qu'il touche les aiguilles, il faut qu'il touche les points, ils sont identifiés par des points tactiles. Il y a toutes des notions aussi cognitives, dans le fond, parce que, bon, le midi, c'est dans le fond, c'est en haut, le 6 heures est en bas, puis après, la notion des minutes. Quand on regarde dans le programme scolaire, au niveau de la notion de l'heure, c'est introduit à peu près au niveau de la 2e année du primaire, c'est commencé. Fait qu'on peut penser qu'un enfant, dans le 7-8 ans, on pourrait tranquillement délaisser le mode sonore, que je vous dirais qui est comme un peu, des fois, comme peut causer certains problèmes sociaux, parce que quand on disons si on a une montre parlante, parce qu'il existe des montres parlantes, des fois par inadvertance, on va toucher la montre, là la montre va se mettre à parler, fait que là les gens se retournent, tandis que les montres braille, ben ça c'est un peu plus discret. Puis la personne peut faire comme nous, là, des fois on va jeter un coup d'œil rapide pour voir l'heure sans avoir l'air impoli.
Sauf que Mme Trépanier, au témoin d'un doute, il y a de moins en moins d'enfants qui apprennent le braille, non?
Non. Dans le fond, les enfants qui sont en cécité continuent à apprendre le braille.
Bon.
Dans le fond, il y a une école spécialisée, dans le fond, qui est en Montérégie, qui est l'école Jacques-Ouellet, qui continue au niveau des enfants du braille. Puis les enfants qui sont dans d'autres régions de ça, il y a comme des cours de braille. Fait que c'est sûr qu'un enfant qui n'a pas d'autres possibilités par rapport à la lecture et écriture, le braille va quand même rester toujours son mode, dans le fond, d'écriture. Fait que le braille, c'est sûr que la proportion d'enfants qui sont en cécité versus les enfants qui ont, dans le fond, une vision, c'est-à-dire qui sont fonctionnellement voyants, est quand même plus faible. On parle, dans le fond, dans les, je pense à peu près un 7 % disons, que des enfants qui seraient en cécité versus le reste, des, dans le fond, de nos jeunes qu'on suit qui ont de la vision fonctionnelle.
D'accord. Dites-moi, Madame Trépanier, on parle beaucoup là de l'apprentissage de l'enfant, mais l'apprentissage du parent, quel est-il? Parce que si moi, par exemple, bon, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai mes yeux, à part une petite myopie, je vois très bien, merci. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas conscience, hein, souvent, de la réalité. Alors, comment est-ce qu'on enseigne aux parents d'enfants qui sont non-voyants ou malvoyants cette réalité-là? Vous travaillez directement avec eux. Comment les aidez-vous?
Oui, c'est ça. Ben, moi, dans le fond, mon travail, une partie de mon travail, c'est beaucoup le développement de l'autonomie. C'est sûr que ça touche, bon, on parlait du temps, ça va toucher tout à l'aspect de la nutrition, comme la prise de repas, dans le fond, des fois, préparation de repas simples, dans le fond, se faire son déjeuner, dans le fond, au niveau de l'habitation, faire le ménage, des petites choses comme ça. Notre rôle à nous, dans le fond, c'est d'accompagner le parent, justement, parce qu'effectivement, le parent qui a un enfant non-voyant ou qui a une basse vision n'a pas de point de repère.
Mais non,
parce que
c'est
dans le fond,
ça.
Les points de repère sont pour les voyants.
Oui.
Alors donc, ce qu'on va faire avec le parent dans un premier temps, on va faire une évaluation de voir ce que l'enfant fait. Puis ce qu'on va surtout mettre l'emphase, c'est que la famille, c'est le premier noyau social de l'enfant. C'est là qu'il peut faire vraiment une participation sociale. Fait qu'on va mettre l'emphase sur que l'enfant, déjà à son domicile, comme tous les autres enfants, ait des responsabilités. L'enfant qui est voyant va souvent dire « je veux le faire, je veux le faire ». L'enfant qui est non-voyant ou qui a une basse vision peut être un peu plus passif puis n'aura peut-être pas ce réflexe-là de vouloir dire « je veux le faire ». Ce qu'on va citer à ce moment-là, que le parent va faire le tour par rapport à l'âge. En fond, c'est un enfant entre 2 et 3 ans. Qu'est-ce que l'enfant pourrait faire? Entre 2 et 3 ans, ben, il peut ranger ses jouets. Alors donc, on va regarder avec le parent, on va lui fournir des stratégies, on va adapter l'environnement, on va lui suggérer à ce moment-là des fois comment justement aménager un coin pour l'enfant que ça soit qu'il puisse être en mesure de faire le rangement de jeu. Après, dans le fond, débarrasser son assiette, mettre la vaisselle dans la vaisselle. Fait que ce qu'on va faire, c'est beaucoup accompagner le parent dans le donnant des stratégies, étant donné que l'enfant ne voit pas. Puis s'il y a des aides qui peuvent convenir quand on parle justement d'horlogerie, bon, on parle de cadran parlant, etc., mais il existe aussi d'autres aides qui peuvent aider l'enfant à ce moment-là pour fonctionner. On va le faire travailler souvent, dans le fond, avec en utilisant comme des cabarets. Ça va limiter son espace quand tu fais des tâches.
Oui, bien sûr.
Fait que c'est beaucoup, comme je pourrais dire, c'est de donner aux parents le moyen que son enfant, qui est comme c'est les difficultés visuelles, soit en mesure de faire comme les autres pères. Parce qu'il ne devrait pas avoir de retard dans son autonomie versus les autres les voyants.
Bien
parce que dans le fond, autrement dit, il y a le potentiel pour le faire.
Bon, ben écoutez, tout ça est encore une fois passionnant. Et il y a tellement de choses à faire, hein, et on ne s'en rend pas compte, hein, nous, qui, comme je le dis souvent, avons nos deux jambes et nos deux yeux. Madame Trépanier, merci beaucoup, c'est passionnant, je pense
bon,
que...
Bon, mais ça m'a fait plaisir.
Oui, mais moi, je serais ravie de vous reparler à un autre moment, parce qu'il me semble qu'il y aura encore tellement de questions que j'aurai envie de vous poser.
Ça me fera plaisir de reparler de ce sujet-là.
D'accord, Madame Trépanier, je vous remercie, je vous souhaite
Bonne
une
journée.
Très belle journée, au revoir.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien, elles joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient.
À cette émission Aime l'été, on aime bien aborder des sujets légers, des idées d'activités touristiques, de visites, de toutes sortes, mais on aime bien aussi, à un moment donné, revenir sur des choses un petit peu plus sérieuses. Et Dieu sait si le sujet que l'on va maintenant évoquer en est un. Il s'agit de la commission sur les soins de fin de vie, une commission sur laquelle siège notamment Jean Lambert. Bonjour, Monsieur Lambert.
Oui, bonjour.
Qui est en studio avec nous, Monsieur Lambert. Je voudrais préciser que vous êtes l'ex-président de la Chambre des notaires, de la Chambre des notaires. Très gentiment, vous avez accepté de venir en studio pour qu'on parle ensemble et qu'on fasse un survol de cette loi sur les soins de fin de vie.
Malheureusement, lorsque le gouvernement du Québec a adopté cette loi à la fin de juin 2014, il avait prévu des budgets d'information assez importants, pas assez à notre goût, mais quand même. Et malheureusement, aucun de ces budgets n'a été utilisé. Donc, les campagnes de formation visant le public sur les divers aspects de cette loi-là, ben, elles n'ont tout simplement pas eu lieu. Et alors, ça explique un peu là, tout ce qu'on a vu dans les médias depuis un an et demi. Les gens posent des questions, n'ont pas tout à fait des réponses précises. Alors, évidemment, je me fais fort, moi, comme membre de la commission, remarquer que j'agis plutôt à titre privé et non pas, je ne parle pas du tout au nom de la commission.
Non,
c'est
ça,
très important.
Bien sûr.
Mais comme j'ai été un acteur dès le départ dans la commission Mourir dans la dignité, là, qui a fait le tour du Québec, par la suite, les travaux en commission parlementaire, je représentais évidemment à ce moment-là le point de vue de la Chambre des notaires. C'est un sujet que je connais bien, puisque pendant mes études universitaires, j'étais aide-infirmier à l'hôpital Notre-Dame-des-Merci, dans le nord de Montréal. Donc, c'est un milieu, c'est une question qui m'a poursuivi pendant toute ma carrière. Alors voilà, ça vous situe. Alors donc, parlons de cette loi.
Alors, parlons de cette loi. Je vous appelle comment? Monsieur Lambert?
On laisse tomber, ça fait lourd.
Oui. Bon, alors, Monsieur Lambert, allons-y comme ça, ou Jean, tenez. Quand on parle d'objectif de la loi, l'objectif général, principal, quel est-il?
Alors, c'est celui d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Et le mot-clé ici, c'est évidemment autonomie pour le juriste que je suis, mais pour tout le monde aussi, c'est la dignité, c'est intimement lié. Alors, on va voir que ça se transpose dans les différents objectifs que l'on va décliner tantôt. Il y en a quatre sous cet objectif général.
Alors, quand on dit fin de vie, à quel moment? C'est quand?
Alors, voilà, c'est la question.
C'est ça.
Tout le monde s'interroge et la raison, c'est que le législateur, sciemment, n'a pas voulu la définir dans la loi. Il a laissé, dans le fond, au corps médical le soin d'en décider au cas par cas. Alors, ça cause certainement une difficulté parce que les gens aimeraient bien à savoir de A à B ou de A à X ou A à Z où ça se situe. Alors, on peut dire que, on va se rabattre sur des définitions qui existent. Alors, tout d'abord, en France, l'Observatoire national sur la fin de vie le définit ici. C'est un processus plus ou moins long, ponctué de ruptures, au cours duquel les individus tentent plus ou moins aisément de faire face à la mort. Le dictionnaire des internautes, plus précisément, plus concisément, période de la fin de la vie d'une personne où la mort est très proche, et où des soins palliatifs sont engagés. Bon. Et celui de l'Institut canadien d'information sur la santé, l'ICIS, alors qui est probablement la référence. Alors, toute personne en fin de vie est celle dont l'état de santé décline et qui est considérée comme étant en phase terminale ou susceptible de décéder dans un avenir prévisible. Alors, donc, on joue avec ça. Et évidemment, il y a tout un débat avec la loi fédérale qui, elle, parle de mort raisonnablement prévisible.
Raisonnablement prévisible.
Alors, donc, qu'en est-il? Alors, on voit ici, finalement, que c'est au médecin, finalement, d'en décider. Mais ça cause tout le débat qu'on connaît actuellement.
Alors, on peut peut-être revenir sur les quatre objectifs que vous avez évoqués.
Bien sûr.
Un
le
petit
premier,
peu plus
tôt. C'est d'assurer à toute personne, peu importe sa condition et l'endroit où elle réside sur le territoire, d'avoir accès à des soins palliatifs complets, des soins de qualité adaptés à ses besoins. Donc, dans un but de prévenir et d'apaiser les souffrances. Mm-hmm. Donc, on retrouve ici les tout premiers articles D'accord. de la loi. Et le second, c'est mm-hmm. officialiser et encadrer la sédation palliative continue. Alors, on peut peut-être se demander un petit peu qu'est-ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est, bien
ben
sûr.
Oui. Alors, c'est un état d'inconscience continue qui est provoqué par des médicaments ou des substances. Mm. Et ce, jusqu'à la mort.
Ce qu'on appelle un coma provoqué.
Oui. Alors, ça se faisait un peu ici et là autrefois. Il n'y avait pas d'encadrement précis. Alors, la loi a voulu donc encadrer cette sédation. Et c'est un moyen alternatif à l'aide médicale pour mourir. Donc, une personne, plutôt que de requérir une mort tel jour, telle heure, dit tout simplement « plongez-moi dans un coma ». Et la maladie suivra son cours, je décéderai sans, dans le fond, m'en rendre compte. Et sans souffrir, évidemment.
D'accord, bien sûr. Bon, l'aide médicale à mourir, elle se situe où?
Alors, c'est la pièce de résistance, c'est le troisième objectif. C'est évidemment l'aspect qui distingue le plus le Québec dans son état d'avant-gardisme au Canada. L'aide médicale à mourir, et il faut comprendre que le contexte dans lequel la loi a été adoptée à l'époque, on n'avait pas le jugement Carter qui a fait volte-face, donc 180 degrés par rapport à la décision d'une vingtaine d'années avant avec l'affaire Sue-Rodriguez, et qui maintenant permet, a décriminalisé jusqu'à un certain point l'aide médicale à mourir. Mais à l'époque où la loi québécoise est adoptée, ce jugement-là n'était pas là. Et la loi fédérale modifiant le code criminel, évidemment pas. Donc, il fallait protéger, dans le fond, les médecins et les gens qui allaient prodiguer, administrer cette aide médicale. Et on a situé ça dans un continuum de soins. Donc, une personne est en établissement ou dans une maison spécialisée ou même à domicile est traitée pour soulager ses souffrances. Et à un moment donné, on se pose la question, quel est le meilleur soin à lui offrir pour mettre fin à ses souffrances, donc en mettant fin à sa vie. Alors, on situe ça dans ce contexte-là.
Ça comme ça. Je vous propose, Monsieur Lambert, de rester avec nous, parce que voyez-vous, dans 30 secondes de là, il y a ce qu'on appelle des autopromos qui vont partir. Mais en principe, cela clôt notre... Mais il nous reste encore un quatrième objectif à voir avec vous. Je vous propose de vous retrouver tout de suite après ces auto-promotions. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Aime l'été, animé par Clotilde Seille, avec ses nombreux invités, soit en studio, soit par téléphone. Restez des nôtres. C'est absolument passionnant la façon dont M. Jean Lambert nous présente ce projet de loi Mourir dans la dignité sur lequel il siège. Merci. Alors, c'est Clotilde Seille qui vous revient en compagnie de son invité, Jean Lambert. Je rappelle que M. Lambert siège à la commission sur les soins de fin de vie, mourir dans la dignité. Il nous restait un point à apporter, M. Lambert. Avant, je voudrais préciser à nos auditeurs qui ont peut-être trouvé qu'on survolait ça très rapidement, mais aujourd'hui, c'était le but de la chose, un survol. Mais vous allez revenir tout au long de cette
aujourd'hui,
saison.
Aujourd'hui, on met la table.
On met la table, voilà. Et lorsque vous allez revenir, on va approfondir chacun de ces points-là, et notamment le dernier, le fameux quatrième objectif. Quel est-il?
Les directives médicales anticipées, c'est probablement dans la loi l'aspect le plus ouvert au public, à tout le monde, parce qu'on invite chacun à rédiger ces directives médicales anticipées. Entendons-nous, il ne s'agit pas d'y aller avec toutes sortes de désirs. Mm-hmm. C'est très encadré. Il y a un formulaire, soit notarié, si on le fait avec son notaire, ou un formulaire qu'on obtient de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et donc, ça permet à une personne de dire dans trois cadres précis, on y reviendra d'ailleurs plus attentivement, dans trois cadres, trois situations bien précises. Par exemple, si elle accepte ou refuse la réanimation cardiovasculaire, la ventilation assistée, donc un respirateur, l'alimentation forcée ou artificielle, la dialyse ou pas, ou encore l'hydratation forcée ou artificielle. Donc, on consacre ici ce que le Code civil disait déjà, que on ne peut pas soumettre une personne à des soins et des traitements sans son consentement. Donc, on consacre le droit au refus.
D'accord.
Peu importe que ce refus entraîne la mort, et ça, c'est reconnu par les tribunaux. Alors donc, c'est très important, et dans l'émission où on verra ce sujet-là en détail, on voit que ça permet aux gens donc de manifester leur volonté, et ça oblige. C'est ce qui est différent par rapport, par exemple, à des directives dans un soi-disant testament biologique ou encore dans un mandat en prévision de l'inaptitude. Dans ce cas-ci, le corps médical est obligé de respecter ces directives.
J'ai très hâte de vous revoir à l'émission, Jean Lambert, pour que nous approfondissions ce sujet. Oui, sujet qui peut sembler douloureux, mais que justement on essaie par tous les moyens de rendre un peu plus léger à certains.
Un vous peu en plus conviendrez. Digeste.
Un peu plus digeste, voilà. Jean Lambert, merci beaucoup.
C'était mon plaisir.
Bonne fin de journée, merci. Toujours sur les ondes de Canal M, c'est M l'été et Clotilde Seille. Et là, je vous amène en bateau. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste une façon de parler. Je vais m'adresser à Daniela Bibeau. Bonjour Daniela.
Bonjour.
Dites donc, vous avez un beau métier, vous, à naviguer comme ça. Presque tous les jours, vous êtes sur le bateau, le Grand Cru, sur le lac Memphrémagog.
Oui, c'est ça, en fait. Donc, en haute saison, là, on circule, donc c'est 6 jours semaine qu'on est au large. Là,
d'accord, d'accord. Alors, vous, comme vous êtes quoi, vous êtes chargé de marketing, communication, tout ça, alors vous êtes, entre guillemets, obligé de prendre le bateau tous les jours.
Oh. Effectivement, c'est une lourde tâche.
Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et j'avais très envie de parler avec vous, Daniela, parce que malheureusement, on le sait peut-être pas assez, mais les bateaux de croisière, les bateaux en général, sont des lieux rarement accessibles, en tout cas aux personnes à mobilité réduite. Alors donc, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous, parce que quand j'ai vu qu'à Excursion Memphrémagog, le bateau était accessible, ce bateau qui s'appelle le Grand Cru, mon Dieu que j'aime ce nom, je me suis dit, il faut que j'appelle ces gens-là. En quoi ce bateau est-il accessible?
Bien, en fait, c'est un bateau qui a été construit en fait en 2011 sur le bord du rivage du lac Memphrémagog. Puis lors de la construction, en fait, au tout début, on n'avait pas pensé à cette adaptation-là, en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Puis on y a pensé par après, vu la demande. Donc, en fait, ça a été construit en conséquence, ce qui fait en sorte qu'on a des passerelles de largeur adaptée pour ce qui est des chaises roulantes, toutes nos portes d'accès au pont principal aussi. On a des toilettes à l'intérieur, en fait, qui sont que pour les personnes à mobilité réduite handicapées. Chose qu'on trouve pas, étant donné que c'est un endroit restreint, là, c'est chaque endroit, je vous dirais, sur le bateau est pensé, puis on a trouvé très important d'ajouter, en fait, cette toilette-là pour les gens. Aussi, en fait, nos tables sont amovibles, puis les chaises sont amovibles aussi, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui ne peut pas se déplacer de sa chaise roulante, là, on peut facilement l'accommoder en enlevant nos chaises. Puis,
et ça a l'air idiot, mais même ici à Montréal, hein, je constate que sur certaines terrasses ou dans certains bars, ce sont des tables et des chaises absolument fixes. Alors, c'est sûr, comment on fait pour les enlever lorsqu'il arrive une personne en fauteuil roulant? Alors, ce n'est pas un détail, hein, c'est important.
Non, exactement. exactement. Nous, lors de la réservation, en fait, c'est une information qui est transmise aux agents de bord à bord, puis on fait la modification. Là, on a toujours fait la modification. On a même accueilli des groupes, en fait, de personnes de mobilité, à mobilité réduite qui viennent. On peut avoir, en fait, le nom, mais c'est sûr que ça doit être sur le pont principal. Là, on peut pas monter au deuxième étage, mais...
OK. Il n'y a, faire... a pas d'ascenseur pour
non,
pouvoir...
Non, d'accord. Pour ce qui est du deuxième étage. D'accord. Au deuxième étage, en fait, on a notre terrasse extérieure. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté une terrasse au premier étage pour que les personnes à mobilité réduite puissent aussi profiter de l'extérieur là, après le repas.
Wow. Alors, maintenant, autre question qui concerne les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes. Est-ce que les chiens guides sont permis?
Oui, tout à fait. Les chiens guides sont permis à bord. Là. Juste à nous le mentionner, nous, on va donner une table où ce que le service va peut-être un petit peu moins passer, les endroits qui sont un petit peu plus restreints. Mais oui, tout à fait, les chiens sont acceptés à bord là, sans problème.
Bon, parfait. Alors maintenant, parlons-en de cette croisière.
Oui.
Ça s'appelle le Grand Cru. J'imagine qu'on doit y déguster des bons vins.
Oui, exactement. On a des vins à bord, tout à fait. En fait, la compagnie s'appelle Escapade Même Frémagogue, puis le Grand Cru, en fait, c'est le nom de notre bateau croisière. Mm-hmm. En fait, ce sont des croisières gastronomiques sur le lac Même Frémagogue dans la région de Côte-des-Cordes-de-l'Est.
Oui.
En fait, on offre des randonnées avec ou sans repas. Ce sont des randonnées entre 2h et 4h, dépendamment le forfait choisi.
D'accord.
Puis oui, on peut y déguster différentes sortes de menus. En fait, le chef a pensé vraiment à toute la clientèle. Donc, on a tant de viande rouge que de volaille, on a des poissons. Puis aussi, on a rajouté cette année là, les plats végétariens et végétaliens aussi. À bord.
Oui, 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 parce que alors là, de plus en plus, hein, il faut penser aussi aux personnes véganes et tout ça.
Exactement,
bon.
Oui.
Mais au niveau des vins, est-ce qu'on goûte à des crus de la région?
Oui, on a des vins du terroir, là, je vous dirais, des vignerons de la région,
d'accord.
Ça, c'est sûr.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Ils
oui,
sont bons.
Notre cocktail de bienvenue, en fait, on offre un cocktail de bienvenue pour ce qui est sur nos sorties sans repas et tous nos spé croisières. Puis, ce sont des produits du terroir, en fait, des cidres mousseux, on a des vins rosés, etc.
D'accord.
Qui sont offerts aussi. Là. Le bateau, en fait, on peut accueillir 176 passagers. Donc, je vous dirais, oui, il y a beaucoup de vins qui se consomment.
OK. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance?
C'est préférable, oui, en haute saison, de réserver à l'avance pour avoir
une place,
notre réservation. Oui,
d'accord.
Exactement. Mais en fait, nous, on navigue entre mai et octobre, donc autant en basse saison, haute saison, on a de la disponibilité.
Ah oui, puis alors à l'automne, autour du lac Même Frémagogue, c'est tellement beau, les couleurs sont tellement magnifiques.
Exactement.
Il faut pas avoir peur hein, de faire
non.
cette croisière-là en octobre, souvent.
Non, c'est ça. Souvent, les gens pensent là, que voguer au large à l'automne, ça peut être un petit peu plus frisquet, mais on a vraiment un espace intérieur qui est adapté là, avec du chauffage.
Ouais.
On a de la grande fenestration qui fait en sorte que vous faites bien au chaud puis admirer la flambée des couleurs, là, sans problème.
Oui. Alors, vous êtes amarré où? Au lac Même Frémagogue, à Magog même, hein?
À Magog même, oui, au quai McPherson, là, en fait, au centre-ville de Magog, en fait.
D'accord. Et encore une fois, n'ayez pas peur si vous êtes... en fauteuil roulant, vous pourrez absolument monter sur le bateau. J'imagine qu'à la réservation, il faut le préciser?
Oui, c'est préférable de le préciser, en fait, juste pour qu'on puisse bien adapter votre accueil à bord.
D'accord.
Question qu'on puisse tasser les chaises, tout
bien
ça,
sûr.
Puis vous adapter tout ça là, pour le confort du client. Oui.
D'accord. Et puis, idem, si vous avez un chien guide, n'hésitez pas à le faire savoir. On vous accueillera, y compris pour le repas.
Exactement.
Parlons aussi, de repas. Oui, pardon,
oui.
Allez-y,
oui,
Daniela.
Oui, en fait, c'est ça. On a aussi, en fait, le train touristique Offered Express, si je peux
me
permettre.
Ah oui, bien sûr.
On accueille aussi les personnes à mobilité réduite. Si vous nous le dites à l'avance aussi, on a des chaises adaptées, là, en fait, puis on a des places à bord qui peuvent être attitrées à ces personnes-là. Puis si je peux préciser aussi pour les chiens Mira, là, on a des places où ces gens-là vont être un petit peu plus confortables.
OK.
Si on se le fait dire à l'avance, oui.
Ah bon, ben ça, c'est parfait. Mais pour monter à bord, comment on fait quand on est en fauteuil roulant à bord du train?
En fait, on a des agents de bord là, qui font la montée. Là, on transfère sur des chaises de la longueur de l'allée,
d'accord.
La largeur de l'allée, en fait, excusez-moi. Puis on vous amène à votre place.
Ah, d'accord. Bon.
Oui.
À ce moment-là, et votre fauteuil est pris en charge, on vous le range
Exactement, on vous le donne à la fin de la randonnée. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, puis qui doivent rester dans leur chaise, par exemple, on a aussi des tables pour ça. On en a un petit peu moins, mais il y a toujours possibilité d'accommoder les gens qui ne peuvent pas transférer de chaise roulante.
Prenons une petite minute. Il va où, ce train?
En fait, le train, lui aussi, se trouve à Magog.
Oui. Oh, il est bruyant, d'ailleurs. Oh là là.
Oui, c'est
oh, je
ça,
suis allée
train...
en fin de semaine.
Oui. Un petit peu, mais en fait, ce train-là, il se trouve à Magog. Puis, en fait, on se promène, notre tronçon, on se promène entre Sherbrooke et on va jusqu'à Broomont. En fait, on a des randonnées jusqu'à okay. Broomont cette année. Donc, on se promène... entre ces
d'accord.
Ces
régions-là, ouais. Oui, et Dieu sait si la région est belle. Hein, on va,
oui.
On le sait, hein, les cantons de l'Est.
Oui.
Ah, très sympa.
Et si je peux me permettre aussi là, la flambée des couleurs sur le train aussi, c'est magnifique.
Oui, là. Certainement. Et tout cela, faut-il le rappeler, c'est accessible, que ce soit le train
exactement.
Ou le bateau, c'est accessible. Alors
oui, c'est
ne
accessible.
Ne vous privez pas, ne vous gênez pas, faites-vous ce plaisir-là. Faut quand même que je parle un petit peu de prix. Il en coûte combien? Parce que je sais que vous offrez, entre autres, un repas gastronomique hein, sur le bateau, le Grand
oui.
Cru. Alors, j'imagine que le prix, ça va avec, évidemment.
Oui, en fait, les prix varient, là, je vous dirais, pour ce qui est avec repas, varient entre 70 et une centaine de dollars, dépendamment du forfait choisi, que ce soit le brunch, le dîner croisière ou le souper croisière. Puis, on a les sorties sans repas là, qui sont aux alentours de une quarantaine de dollars. Ces sorties sans repas-là, par contre, vous avez des menus à la carte là, avec des tapas à bord. Là, si
oui.
Vous voulez manger quelque chose, ça, c'est bien entendu.
C'est pas si cher que ça. Voyez-vous, je non. M'attendais à bien pire que ça. Et le train, ça coûte combien?
C'est dans les mêmes
dans les mêmes prix.
Oui,
d'accord.
Dans la même gamme.
Écoutez, Daniela Bibeau, ça a été un plaisir de vous parler. J'espère avoir donné l'envie à des gens qui nous écoutent de partir à l'aventure ou du lac Memphrémagog ou des paysages des cantons via le train. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et puis bravo pour votre accessibilité.
Parfait, merci beaucoup.
À bord. Merci, Daniela.
Merci.
Au plaisir.
Bye-bye.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse. Plus j'aime t'embrasser, je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime. Plus j'aime t'embrasser.
Bon, c'est vrai, je suis française d'origine, mais quand même, ça fait 30 ans que je suis là, et il y a encore des fois où je ne comprends pas tout. Honnêtement, la Constitution, la modification de la Constitution, j'ai l'impression que j'entends tout et son contraire, j'entends des promesses, j'entends toutes sortes de suggestions, bref, tout ça est très très obscur pour moi, mais j'ai au bout du fil la bonne personne pour répondre à toutes mes questions et à toutes mes interrogations, c'est Laurent Trépanier. Bonjour Laurent.
Bonjour madame, vous allez bien?
Ça va bien, ça vous fait sourire comme introduction?
Oui, oui, mais ça me fait sourire et non à la fois. Parce que, en fait, c'est la situation de bien des gens et des gens qui sont, qui soient étrangers ou nés au Québec, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, Laurent, d'abord, expliquez-nous pourquoi vous, vous connaissez bien ce sujet-là.
En fait, moi, étant juriste, c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir une formation par rapport à ça. Et évidemment, j'ai un intérêt marqué pour l'actualité politique et juridique. Donc, j'ai développé effectivement un intérêt fort pour la Constitution.
Bon, alors, on la modifie comment, cette Constitution-là?
Bon, ben d'abord, avant de vous parler directement de la modification, je pense que c'est important de vous rappeler quelques sujets qui sont contenus dans la Constitution.
Donc,
les raisons pour lesquelles on aurait besoin de la modifier.
Oui.
Mais d'abord, il y a la forme de l'État. Est-ce que nous, on est dans un État fédéral et on est aussi un État donc monarchique hérité de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni?
Oui.
Donc voilà. Et puis aussi, c'est la Constitution qui prévoit la séparation de nos sources de pouvoir. Donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le judiciaire.
Oui.
Et on a aussi la fameuse Charte canadienne des droits et libertés. Donc, tout ça, c'est tous des sujets qui, si on veut les modifier, vont devoir passer par les différentes manières de modifier cette Constitution-là. Et ces manières-là, eh bien, sont au nombre de 4.
D'accord.
On a d'abord la modification unilatérale par une province ou le fédéral.
Oui.
Cette modification-là, en fait, elle prend place lorsque on touche uniquement à l'organisation ou au fonctionnement d'une seule province ou du fédéral. Donc, vous comprendrez, Mme Say, que c'est plutôt rare, mais ça existe toutefois.
Okay.
Je vous donne un exemple.
Oui, c'est en plein ce que j'allais vous demander.
On a déjà vu ça, par exemple, l'Ontario, entre autres, a déjà voulu restreindre les activités politiques que ses fonctionnaires pouvaient faire. Donc, pour une question de transparence et de
sécurité,
on a réduit les différentes activités politiques que les fonctionnaires ontariens pouvaient faire. Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, ces modifications-là doivent toujours se faire en respectant la Charte canadienne des droits et libertés.
Mais oui.
Donc, ça va de soi, mais c'est toujours important de le mentionner.
Bon.
Deuxième possibilité de modification de la Constitution, cette fois, c'est une modification qu'on dit qui va être faite par le fédéral et là où les provinces concernées.
Mm-hmm.
Donc, le fédéral plus une ou des provinces. Donc, pour faire cette modification-là, ce que ça prend, en fait, c'est une résolution de la Chambre des communes, donc du Parlement à Ottawa.
Oui, bien sûr.
Du Sénat et puis de l'Assemblée de la province concernée.
Mm.
Et donc, ce qui est intéressant avec cette modification-là, c'est que ça ne permet pas à une province de se négocier un statut particulier ou bien de faire des modifications qui entreraient en contradiction avec ce qui existe déjà, mais justement de faire des modifications qui ne sont pas en contradiction avec
ce qui existe déjà.
Qui existerait déjà.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Je vous donne un exemple, Mme Say, pour qu'on
comprenne bien.
Par exemple, si on viendrait à modifier une frontière entre deux provinces, ça serait quelque chose qui n'entrerait pas en contradiction avec ce qui est déjà prévu et qui finalement ne concernerait que le fédéral et la frontière entre,
voilà, entre les deux provinces. D'accord.
Exactement.
J'ai compris.
Ensuite, troisième possibilité, une modification qu'on dit à l'unanimité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend l'aval du fédéral et de l'ensemble des provinces du Canada. Donc, encore une fois, on doit encore aller chercher une résolution de la Chambre des communes, du Sénat et de l'Assemblée, mais cette fois-ci des provinces, mais cette fois-ci de chacune des provinces, donc de toutes les provinces du Canada. Et on doit utiliser cette modification-là pour 5 sujets particuliers.
OK.
Les énumère rapidement. La charge de la reine, donc, qui est prévue dans la Constitution, les pouvoirs de la reine, ou encore les provinces, le fait que les provinces ont le droit d'avoir au moins le même nombre de députés à la Chambre des communes que le nombre de sénateurs qui les représentaient en 1982. C'est un petit peu compliqué. Pourquoi 1982? Parce que c'est la date où on a rapatrié la Constitution, donc où le Canada est allé chercher la Constitution au Royaume-Uni et l'a ramenée au pays. Et c'est ce qui lui a donné, en fait, l'indépendance pour modifier sa Constitution sans l'aval du Royaume-Uni. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là. Et ça assure une représentation aux provinces à la Chambre...
À la Chambre des communes.
3 derniers sujets qui concernent la modification à l'unanimité, il y a le bilinguisme institutionnel fédéral. Donc, les institutions fédérales sont obligées d'offrir des services en français et en anglais.
Mm-hmm.
Ensuite, la composition de la Cour suprême du Canada. Si, par exemple, demain matin, on disait, Bon, aujourd'hui, à la Cour suprême, on a 9 juges, mais si on disait demain matin, on en veut 3, faudrait procéder par la modification à l'unanimité. Et finalement, le dernier cas de figure qui s'applique à ce type de modification-là, c'est justement la modification des procédures de modification de la Constitution. Donc, tout ce que je vous explique en ce moment, c'est prévu à la Constitution, mais si jamais on voulait modifier ce que je vous explique présentement et ce que j'explique à vos auditeurs, eh bien, faudrait procéder par une modification à l'unanimité. Je termine rapidement avec la dernière possibilité de modification, qui est le... on appelle ça le 750. Donc, ça prend 7 provinces et 50% de la population canadienne. Donc, ces 7 provinces-là doivent former 50% de la population canadienne. Et donc, on applique cette modification-là, en fait, pour tous les autres sujets qui ne seraient pas traités par les 3 précédentes modifications dont je vous ai parlé au départ.
Eh bien, dites donc! Avouez que c'est pas simple quand même.
Je vous avoue que c'est pas simple, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on comprend bien ça, ça nous permet d'évaluer les positions politiques et juridiques dans le débat public, et ça devient particulièrement intéressant, mais je vous le conseille, Mme Fay, ce n'est pas simple.
Non, c'est ça, mais effectivement, et c'est peut-être pour ça aussi que parfois, les propos de nos politiciens nous semble soit erroné, soit quelque peu glauque, parce que justement, on a tendance à ignorer tous les tenants et les aboutissants de ces modifications de la Constitution, là, comme ça.
Tout à fait, et c'est pour ça que c'est important de les garder en tête aussi, pour savoir, est-ce que la proposition qu'on nous fait, est-ce qu'elle est crédible juridiquement et politiquement?
Alors, on vous remercie beaucoup, Laurent Trépanier-Capistran, de nous avoir éclairé ce matin, et d'ailleurs, je devrais dire ce midi, à l'heure qu'il est, et je vais vous donner rendez-vous prochainement sur nos ondes pour un autre sujet. J'aimerais bien, tiens, entre autres, que vous nous parliez peut-être les riches et les pauvres. Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'ils sont à la même, comment dirais-je, sur le même palier? Est-ce qu'on agit de la même façon pour les riches pour les pauvres que ce qu'on fait pour les riches? Enfin, en tout cas, voyez-vous un sujet comme celui-ci? Est-ce que ça pourrait vous tenter?
Ça me fera plaisir de vous préparer une prochaine chronique sur ce sujet.
D'accord, et j'espère que vous serez plus clair que moi. Voilà, je voulais parler du système de justice à 2 vitesses. J'ai cherché l'expression, mais je l'ai retrouvée. Merci, Laurent.
Merci à vous et
à bientôt.
Merci à vos auditeurs.
Merci, au revoir. Quelques nouvelles en rafale maintenant pour conclure cette émission Aime l'été. Jeunes en devenir recrute des participantes. Jeunes en devenir est un programme qui est destiné aux jeunes femmes qui s'auto-identifient comme ayant un handicap. Le programme offre une formation rémunérée de 6 semaines en pré-employabilité, suivie d'un placement de 14 semaines en milieu de travail qui est aussi rémunéré. Durant cette période, les participantes sont soutenues par l'employeur et le personnel. Pour plus de détails sur les conditions d'admissibilité, on peut communiquer par courriel avec Julie Blais au jblais@ccrw.org ou encore par téléphone en composant le 514-669-2307. Formation en technologie adaptée, le calendrier de l'automne 2017, une proposition d'INCA Québec qui vous rappelle que toutes les formations sont gratuites grâce à la générosité de leurs donateurs. Alors, cet automne, il y aura 10 formations qui seront offertes et 9 qui seront offertes sous forme de webinaire, c'est-à-dire que les cours sont offerts sous forme de vidéo sur la plateforme de formation en ligne. C'est un format très apprécié des participants qui vous permet ainsi de vous connecter à cette formation selon votre disponibilité. Vous pouvez la suivre à votre rythme et surtout, c'est dans le confort de votre foyer. Alors, pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, vous communiquez par téléphone au 514-934-4622 au poste 230, 934-4622 au poste 230 ou encore en écrivant à robert.savard@inca.ca. Voilà ce qui met un terme à l'émission Aime l'été pour aujourd'hui. C'était Clotilde Say qui vous donne rendez-vous demain à midi.